Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, c'est l'avant-dernière librairie francophone de la saison et aujourd'hui, avant le grand voyage de l'été, nous allons ralentir le rythme et nous poser autour d'un arbre avec des livres à lire au soleil. Les arbres sont très présents dans les rayons des librairies ces derniers temps. Encore un livre sur un arbre, me direz-vous? Oui, mais un livre pas comme les autres. La Belge Karine Lambert publie un roman parfait pour les vacances et pour tous les âges. Une histoire solidaire dans un village autour d'un platane. Lui aussi va vous distraire au cours de vos escapades estivales. L'auteur, acteur et metteur en scène de théâtre publie un petit livre plein de notes et de réflexions philosophiques sur ce qui nous entoure. Un livre drôle et un drôle de livre. Bonjour Jean-Michel Ribes.
Bonjour.
Comment allez-vous Jean-Michel?
Mais très bien.
On est très heureux de vous retrouver pour ce petit ovni paru chez Actes Sud. C'est un peu des brèves de comptoir personnels. Vous êtes à la fois le comptoir, le client et l'observateur de vos propres petites phrases.
Si vous voulez, mais moi je pense que c'est une chose très étrange. Vous savez ce qu'on appelle les aphorismes. Parce qu'un aphorisme, ça ne se cherche pas, ça ne se trouve pas. Ça apparaît soudain.
Ça apparaît.
Et tout d'un coup, ça apparaît. Alors, on est content et alors on le note quelque part. Et c'est un livre que j'ai destiné aux gens qui s'ennuient et surtout aux gens qui n'aiment pas lire. Oui. C'est un peu, si vous voulez, comme une entrecôte pour les végétariens.
Oui, c'est ça. Vous dédiez ce livre à ceux qui n'aiment pas lire et à ceux qui s'ennuient. Oui. On en reparlera tout à l'heure avec vous, Jean-Michel Ribes. Avec nous en plateau, un artiste burkinabé et un musicien suisse, Jacob Salem et Somme Keta, joueront un titre en acoustique dans notre studio tout à l'heure. Et puis, nous vous conseillerons un livre de poche à emporter partout sur le thème de l'égocentrisme avec le Québécois Serge Marquis.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et comme d'habitude, quatre libraires nous accompagnent pour cette émission. La France, la Suisse et la Belgique sont en compétition pour la Coupe du Monde de foot. Nos libraires seront donc aujourd'hui aux couleurs de leur pays respectif. La librairie francophone aussi. Allez, la France suit belge ou la suit belle franc ou ce que vous voulez. En tout cas, gagnez tous, comme ça on ne sera pas embêtés. Bonjour Jérémy Laniel.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez le Canada cette semaine. Vous êtes libraire à Rosemère dans la librairie Carcajou. Pas de Canada à la Coupe du Monde de foot. Pourtant, Montréal a une bonne équipe. L'Impact de Montréal, par exemple.
Bon, cette saison, c'est pas terrible. Et le soccer national non plus n'est pas terrible. On se souhaite. On se croise les doigts, peut-être. 2026, 2048, on sait pas.
Un jour, 2048, un jour. Pour la France, c'est Mathieu Colombe cette semaine, en position de force. La France. Bonjour Mathieu.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie Goulard, à Aix-en-Provence.
Toujours.
Et vous êtes fan de foot.
Absolument pas.
Dominique Bressoux, bonjour.
Bonjour, Emmanuel.
Vous êtes notre libraire suisse, la plus imprévisible, et vous êtes libraire à Boudry, dans la librairie Une Petite Prose. Tout va bien pour vous, Dominique?
Tout va très bien, merci.
Bien. Hello, Déborah Damblon.
Hello, Emmanuel Kérad.
Merci d'être avec nous. Déborah, vous êtes notre douce libraire belge de Bruxelles, de la librairie La Licorne, et vous interviendrez.
Et pas votre joueuse de foot, heureusement.
Non, pas encore. On va tous vous mettre au foot, vous verrez. Bon, merci. Vous restez, bien sûr, tout au long de l'émission avec nous. Bonjour, Jacob Salem.
Bonjour.
Vous êtes un artiste burkinabé. Oui. Vous êtes venu accompagné d'André Courba, alias Somme Keta, musicien anglo-suisse. Bonjour Somme Keta.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est une formidable rencontre artistique et humaine que nous raconterons tout à l'heure, après votre titre joué dans nos studios d'ailleurs. Mais on commence cette émission, comme chaque semaine, par une histoire, une anecdote personnelle. Que voulez-vous nous raconter, Jacob?
Oui, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée avec ma mère. J'ai vu une guitare avec un pasteur et j'ai vu la guitare, mais je ne connaissais pas son nom. Il m'a dit que c'est une guitare. Moi, j'ai dit, je veux. Ça fait 12 000 francs.
2 000 francs pour la guitare?
12 000.
12 000
francs CFA.
Environ 20 euros.
Environ 20 euros. Voilà. Et il faut savoir, en fait, que votre famille était serviteur du roi. Donc, oui. Vous viviez au palais.
Oui. Non, ils ont servi le roi, mon père et ma mère. Oui. Ils sont quittés maintenant. C'est moi qui les ai remplacés.
D'accord, voilà. D'accord.
Donc, je suis allé voir ma mère, demander l'argent. Elle m'a dit que toute son économie, elle est 5 000 francs. Donc, j'ai pleuré.
Il a manqué 7 000.
Elle est partie emprunter un monsieur pour me donner. Donc, je suis parti donner le pasteur. Il m'a donné la guitare.
Ouais.
Ma mère est partie me laisser. Ça veut dire qu'elle est morte. Mais grâce à lui, je suis devenu chanteur. Voilà, c'est ça que...
C'est grâce à elle, en fait.
C'est grâce à elle. Ouais. Mon histoire est ça.
Elle est décédée aujourd'hui, c'est
elle
ça?
Elle est décédée, oui.
Voilà. Et un beau parcours, parce que maintenant, vous êtes sur les scènes internationales.
Oui, oui.
Et grâce à cette guitare, oui, grâce à ce pasteur qui vous vend cette guitare, vous êtes devenu un grand musicien.
C'est celui qui a voulu prêter. Oui. Nous prêter l'argent.
Voilà, c'est une belle reconnaissance, un bel hommage. Merci. Jacob Salem et Somme Kieta sont dans la librairie francophone cette semaine. Et Jean-Michel Ribes aussi est dans cette librairie pour Cris et Cris, paru chez Actes Sud. Vous dédiez ce livre donc à tous ceux qui s'ennuient et vous évoquez en préambule des issues de secours. Mmh. Qu'est-ce que c'est,
les issues de secours?
Oui. Enfin, dans ce cadre-là.
Mais dans tous les cadres. C'est-à-dire que quand on vit un peu, quand on n'est pas, comme moi, très bien équipé pour la réalité, c'est vrai, quand tout d'un coup elle devient un peu étouffante ou un peu trop contraignante, ou tous ces gens qui vous, les gens qui savent, les gens qui vous disent ce qu'il faut faire, les gens, etc. Tout d'un coup, on a envie de briser le verre et c'est un peu ça, les issues de secours, ça vous fait respirer ailleurs.
Le premier chapitre s'intitule « Pour ceux qui n'aiment pas lire ». Alors, c'est vrai, parce que ce sont des phrases courtes, donc on peut piocher comme ça, ça et là. Il y a des petites phrases qui résonnent comme des réflexions sur la vie ou bien des observations du quotidien. Par exemple, l'homme dépasse souvent 50 ans sans s'en apercevoir et ensuite, il est trop tard pour freiner.
Mais moi, vous savez, ces phrases, c'est les phrases courtes, n'en disent pas forcément plus longues que les phrases longues, mais quel commentaire il y a à faire derrière? C'est comme un, vous savez, c'est comme un caillou qu'on jette dans l'eau, ça fait des ronds et les ronds, je les laisse aller où ils veulent.
Ouais.
Mais je me suis aperçu d'une chose, souvent, les gens m'ont dit pourquoi, moi j'écris surtout des pièces de théâtre, quelques livres en plus, etc. Mais les gens disent, mais pourquoi tu écris des choses courtes, etc. Et je me suis aperçu que souvent, de quoi se souvient-on de Rabelais? Peut-être d'une phrase.
Une petite phrase, oui.
Une petite phrase d'Alphonse Allais, une petite phrase de Jules Renard. Je ne suis pas sûr que, voilà, on se souvienne de ses pièces. Et on se souvient de, il ne suffit pas d'être heureux, il faut encore que les autres ne le soient pas. Enfin, on se souvient des choses comme ça. Et je pense que ces phrases, on serait peut-être un peu oubliées.
Ouais. Il y a de belles constatations aussi, vous dites, pour nous éviter de nous rendre tristes, certains amis, quand ils sont morts, se retirent de nos souvenirs. Ou encore, le tout n'est pas de tomber amoureux, encore faut-il pouvoir se relever.
Oui, oui.
C'est du vécu, ça, Jean-Michel Ribes.
Mais vous savez, rien n'est vécu. Moi, je pense que les gens qui disent le monde sont ceux qui l'inventent. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression que aucun historien factuel nous dit le monde. Je pense que le monde, c'est Les Misérables de Victor Hugo qui nous disent beaucoup plus le 19e siècle, que c'est Raymond Queneau avec Zazie dans le métro, etc. Je pense que le vrai monde, la réalité, est donné. Le témoignage d'un siècle, c'est ceux qui l'ont inventé, qui nous disent vraiment ce que c'est, parce que c'est c'est l'émanation à la fois créative et poétique d'un peuple qui arrive à travers ses écrivains, et c'est ça qui compte, c'est pas de savoir combien coûte le paquet de cigarettes.
Vous êtes drôle, si lucide à la fois dans ce livre. Lorsque vous parlez des acteurs, par exemple, vous dites « Le problème avec les acteurs qui jouent faux, c'est que souvent, ils pensent juste. »
Oui, ça, c'est...
Qui pense juste dans ce métier, Jean-Michel?
Alors, non, le problème... Alors, je vais rester sur les acteurs, si vous voulez, parce que d'un coup, quand on dirige un acteur...
Qui pense juste?
Qui pense juste dans ce métier?
Oui.
Vous voulez dire il faut que je dise que ce soit vous en ce moment?
Non, pas du... ah bah non, parce que non, ça voudrait dire.
Non, mais vous savez,
ce que ça veut dire,
dans ce que je veux dire. Dans ce que
je
veux dire,
je ne suis pas acteur, moi.
Non, je veux dire, les acteurs et les acteurs, quand on les dirige comme ça, on dit c'est pas faux, c'est pas. Tout d'un coup, ils développent une argumentation extrêmement construite, très juste, très argumentée, mais qui n'a rien à voir avec l'art de jouer. Souvent, il y a des acteurs qui sont décérébrés et qui sont géniaux. Rému était d'une bêtise à crever par terre, et quand il jouait Einstein, il était plus intelligent qu'Einstein.
Ouais, vous citez les morts, quoi. Il y en a des vivants qui sont comme ça aussi.
Oui, mais les vivants, j'en côtoie tous les jours, et je dois dire que en ce moment, je fais beaucoup d'auditions et je suis sidéré par le talent de cette jeune génération qui arrive, qui est merveilleusement inventive, créative, et il y a beaucoup de gens qui vont nous aider, nous les auteurs dramatiques, à avoir du talent en jouant nos pièces.
Vous égratignez un peu le théâtre, hein, Jean-Michel Ribes. Par exemple, vous écrivez « Est-ce l'augmentation de l'espérance de vie qui autorise les auteurs à écrire des pièces interminables ? Le théâtre était plus vif quand nous mourions jeunes. »
Oui.
Vous pensez ça ?
Oui, je pense qu'il y a une limite à la réception. Et je pense qu'il y a une espèce de déroulement de l'ego, comme ça, du noir. que je comprends, mais je crois qu'il y a il y a une limite.
C'est quoi la limite?
Moi, je dirais qu'au bout de 2h15, après, vous savez, c'est trop dur. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup, quelqu'un a dit, vous savez, le théâtre, c'est un endroit où vous regardez votre montre, il est 9h, 2h après, vous la regardez, il est 9h10. Donc, c'est un peu ça, le problème.
Donc, en fait, vous parlez de ces pièces à Avignon, par exemple, la cour du Palais des Papes, où ça dure 4h, 5h, 6h, parfois. Ça ne vous va pas?
Bah, ça dépend, mais je crois que si vous voulez, il y a la réceptivité. Il n'y a pas qu'à Avignon, hein, je vous rassure, il y en a partout.
C'est vrai. Oui. Mais comme il y a le festival qui arrive.
Bon. Oui. Mais non, mais qui est indispensable, qui est un révélateur de talent et d'émergence formidable. Oui.
Vous êtes cynique aussi, Jean-Michel. Vous dites parler avec les gens n'est pas toujours inutile. Ça permet de penser à autre chose pendant ce temps-là.
Oui. C'est pas cynique, c'est formidable. Écoutez, normalement, il y a le nombre de gens qui commencent une conversation où normalement on en dit, s'il te plaît, on arrête, la vie est courte, arrête-toi, je m'en vais. Eh ben non. Moi, je les laisse parler, mais au moins, je pense à autre chose pendant ce temps-là, ce qui fait que mon temps n'est pas tout à fait perdu.
C'est horrible.
Non, c'est pas horrible, c'est aussi une issue de secours, ça.
Ouais, c'est une issue de secours.
Oui.
C'est pas très honnête.
C'est plus qu'honnête, c'est courtois.
Oui, courtois.
Bah ouais, je ne vexe pas, j'arrête pas.
C'est vrai. Voilà. Bon, allez, soit, je vous l'accorde, courtois.
Merci.
Il semblerait que vous soyez revenu de la politique, Jean-Michel Ribes. Vous qui étiez proche du président français François Hollande, page 39, il y a cette réflexion, cet aphorisme. Beaucoup de gens s'égarent en pensant que l'homme politique est un homme, alors que c'est un homme politique.
Oui, mais moi j'étais... ami de François Hollande, je ne suis pas quelqu'un qui... Je ne suis pas parti politique, etc. Non, je suis ami de François Hollande. Je le connais depuis longtemps avant qu'il soit président, etc. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup en tant qu'homme. C'est quelqu'un d'humain, c'est quelqu'un de rapide et c'est quelqu'un surtout qui a de l'humour. Et je pense que les gens qui ont de l'humour, c'est proche des gens qui ont de l'humanité. Voilà, j'aimais bien le voir, on échangeait, c'était généreux et je pense qu'il n'était pas, stratifié dans des diktats politiques, etc. Alors après, on peut l'apprécier ou pas, mais moi...
Mais ça reste un homme politique, c'est ça que vous dites?
Pardon?
C'est un homme, mais ça reste un homme politique.
Bien sûr.
Même votre ami François Hollande.
Non, mais bien sûr. Mais dans les hommes politiques, il y a aussi des hommes politiques, des hommes politiques, des hommes pots, des hommes lits, des hommes tics, vous voyez. Il était plutôt juste pot.
Bon, on va donner la parole à nos libraires, Jean-Michel Ribes, si vous voulez bien. Quatre libraires ont lu votre livre, les quatre. Le Canada, la Suisse, la France et la Belgique. On commence par qui?
Par le Canada.
Le Canada, allons-y, Jérémy Laniel.
Oui, ben, une collection d'aphorismes, ça a toujours un peu c'est haut, c'est bas. Mais ce livre n'échappe pas à la règle. Je dois avouer qu'il a fonctionné pour moi. Ribes est parvenu à me accrocher un sourire franc au visage, et c'est pas toujours le cas lorsque je fais des lectures. Il fait usage d'intelligence, mais surtout d'une pertinence dans la concision de l'écriture. Ça fascine, et pour cela, vraiment, bravo.
Bien. La Belgique, merci. Ça vous va?
Ah bah ça va très bien, j'adore la Belgique.
Déborah Damblon.
Et ça tombe bien parce que moi j'ai adoré votre livre. Parce que vraiment, hein, tant de sagesse en si peu de mots. Et puis tellement de réflexions en si peu de phrases. Bah, en quelques jours, moi je l'ai pris en main, repris en main, ouvert tellement souvent que je ne le compte plus. Puis j'en ai copié dans mes carnets, puis j'en ai envoyé à des amis. Et je suis vraiment très 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 loin d'en avoir fait le tour.
Bien, je crois que c'est le cas de Dominique Bressou pour la Suisse qui a pris des notes aussi, Dominique Bressou.
Absolument, oui. J'ai recopié quelques-unes de ces petites phrases qui paraissent nées au hasard de la plume. C'est parce qu'elles arrivent à nous faire rire, réfléchir. Mais alors, ma préférée de toutes et de loin, c'est « Je préfère le bordel de la pensée aux raisons closes ». Ça, c'est génial. Vous arrivez à éviter, dans la majeure partie du livre, un cynisme de mauvais aloi. Et grâce à une imagination absolument débordante.
Oui, c'est vrai qu'il y a de belles phrases et puis il y a des blagues un peu limites. On va y venir dans un instant. Après, Mathieu Colombe, qui a dû adorer ce livre, Le Connaissant pour la France.
Eh bien, vous ne vous trompez pas, je ne dirai pas l'inverse de mes petits camarades. Ça a très bien marché avec moi. J'ai vraiment ri parce que ces aphorismes sont souvent drôles, touchants. Des fois, ils sont absurdes. Mais par contre, à chaque fois, ils tapent dans le mille d'une manière complètement intéressante et récréative. En plus, l'aspect plutôt bac à sable de ces idées jetées telles quelles sur le papier. Mais en fait, moi, je trouve ça très jouissif. Donc on prend un énorme plaisir à vous lire.
Bac à sable. Alors allons-y, puisque il y a de petits éloges de l'homme fragile, par exemple.
Vous faites... sans vouloir vous couper, Manu, oui. J'ai voulu aussi, devant l'assassinat de l'homme en ce moment, avec MeToo, etc. On n'ose plus bouger, etc. Oui. J'ai voulu quand même rendre un petit hommage aux hommes fragiles, aux hommes troncs, aux hommes, etc.
Voilà. Oui. Alors justement, on va en parler. Non mais c'est drôle, hein. Vous évoquez aussi l'homme à court d'idées. On reste dans l'absurde, puisque selon vous, l'homme à court d'idées est fier de ses aisselles, ou l'homme à court d'idées n'a jamais d'érection pendant la messe.
Oui. Mais, oui. Si vous voulez, c'est des phrases qui sont un petit peu comme les Marx Brothers. Je pense que l'absurde est quelque chose qui n'a pas de comme ça, qui ne s'accroche pas à temps. Et puis, ça permet aussi, dans les émissions de radio, de donner aux animateurs quelques grains à moudre.
Oui, c'est cela. Oui. L'homme grenouille aussi, qui se sent plus en sécurité en Angleterre qu'en France.
Bah oui.
L'homme grenouille en a souvent marre.
Oui, c'est tout aéreux.
Est-ce que vous voulez qu'on parle de l'éloge de l'homme de petite taille ?
Si vous voulez.
Allons-y, vous êtes prêts ?
Oui.
Vous assumez ?
Oui.
L'homme de petite taille se masturbe souvent en regardant Blanche-Neige.
Oui, bah oui.
Non, mais franchement, Jean-Michel, bah oui. C'est pas possible.
Mais oui, mais il faut le savoir.
Non, mais c'est
horrible. Mais il faut
possible.
Le savoir. Le génie de Walt Disney, c'est d'avoir mis cet érotisme derrière Hatsum et tout ça. Mais oui, ils ont une sexualité, les nains de Blanche-Neige, évidemment. C'est pour ça qu'ils nous sont si sympathiques.
Oui, je vous passe l'allusion à la taille du sexe, hein, de l'homme de petite taille.
Oh non, allez-y.
Bon, allez-y, vous, hein, moi, c'est bon. Non, ça va. Non,
j'ai oublié ce que j'ai dit.
Bon, on vous termine avec une courte nouvelle. Là, c'est un petit peu plus sérieux, qui met en scène un jeune homme pieds nus qui se plaint du langage. Oui. Il ne veut plus parler cette langue française trop vieille. Mmh. Il faut, selon lui, réinventer le langage. Et c'est vrai que ça se défend comme idée. Ça compliquerait tout, mais ça se défend.
Oui, c'est-à-dire que, par exemple, je pense qu'il y a des mots usés qu'on peut, comme les châteaux, remettre en forme et remettre, restaurer. Et puis, il y en a qu'il faut arrêter. Par exemple, je pense qu'il y a un mot qu'il faut changer d'urgence, c'est le mot culture. Le mot culture, c'est un mot, je trouve, qui est usant, c'est pas le plaisir de culture, c'est le devoir de culture, c'est la culture, ça ne veut plus rien dire, ça ennuie. Il faut remettre l'art, il faut remettre l'émerveillement, il faut remettre la poésie au sens de ce qui doit nous attirer vers autre chose que, je veux dire, certaines banalités. Je pense que la culture a été trop mâchouillée, trop usée, trop... Là, on a la culture du web, la culture du fromage, la culture des chaussures, la culture, etc. Ça ne veut plus rien dire. Il faut changer le mot.
Qu'est-ce qu'on utilise comme mot ?
Je vous le dirai.
Bah non, maintenant.
Moi, je pense que l'émerveillement est important.
Oui.
Je suis contre l'action culturelle. Je suis contre cette espèce de volonté qu'on a d'apprendre l'art, d'apprendre les choses. On n'est pas en mariage forcé avec la Joconde. On peut la trouver un peu insignifiante et bête sans être pourtant acculturé. Je trouve qu'il faut retrouver de l'élan, de l'émerveillement. Et comme le disait Duchamp, l'œuvre est faite par celui qui la regarde, mais pas par celui qui l'enseigne. Et j'aimerais beaucoup, moi, qu'on amène tous ces jeunes gens devant des paradis merveilleux d'émerveillement qu'il y a partout, et les professeurs le font très bien, mais que ça s'arrête là. Qu'on ne nous dise pas les dieux qu'on doit aimer. Laissez les gens s'exprimer avec leur sensibilité à eux.
L'émerveillement pour remplacer le mot culture.
Oui.
Oui, c'est pas mal.
Je vous remercie.
Bien. Bravo, merci Jean-Michel Rive.
Je vous en prie. Et je voulais dire une chose, j'adore le Burkina Faso.
Eh ben, vous allez être servi.
Je suis allé souvent et j'adore ce pays.
Eh ben, ils vont s'installer justement, Jacob Salem et Somme Kieta, ils vont s'installer pour jouer un titre dans les conditions du direct dans notre studio. Merci Jean-Michel, vous restez bien sûr avec nous.
Merci à vous. Ah
oui,
une
petite surprise
pas.
Avec vous tout à l'heure, on ne vous quitte pas non plus, on est fidèles, vous le savez. Cris et cris est paru aux éditions Actes Sud. À suivre, un livre de poche qui va vous aider à vous libérer de l'égocentrisme et à vous aimer, avec un auteur québécois. Et puis il sera question des arbres avec Karine Lambert. Avant cela, voici donc l'artiste burkinabé Jacob Salem, accompagné du musicien suisse Somme Kieta. Ils sont dans notre studio pour un extrait de leur premier album dans une version acoustique inédite. Avec une guitare et un dobro, guitare complètement métallique. Et Nan Noli, c'est le titre, dans la librairie francophone, Jacob Salem et Somme Kieta.
Mampata wa kiri na yo lampo e mampata tanka e no yo nyorio Mamnim baba la mamnim ma mamnim baba la mamnim kamba. Naba de Gaulle, Naba de Gaulle, Fran Naba de Gaulle. Mampatar wakie na yola mpoe, mampatatankaye na yoyoryo. Mamnim baba la mamnim ma, mamnim baba la mamnim kamba. Nasar miga ye la mamwo, tomsan katar na yo. Vire mam na yo yibu, vira yita mam na yo kambo. Tomsan katar na yo. Tanam tala mam king France, mam kele mami yeta man mam suri. Nanduli nanduli nanduli, wakibeye. Nanduli 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 nanduli, wakibeye. Nanduli 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 nanduli, wakibeye. Nanduli naba de Gaulle, Afrique naba de Gaulle. Mam tara pisusko. Wanyo kama mpisanlo Nasar miga ye la mango Tiba mtara mumu fangili Mamkele mami yeta manu mamsuri Asiri mana mamsuri Mdatum pusum zame Datum pusum zame.
Jacob Salem et Sam Keta avec Nan Nouli dans notre studio dans une version acoustique sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter. Merci beaucoup à vous deux. Venez, je vous en prie, nous rejoindre en plateau. Le temps d'une petite transition.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la Première.
RTBF la Première.
Ici Radio-Canada Première.
France Inter.
Jacob Salem et Sam Keta, deux artistes, une rencontre et un album dont vous allez entendre parler cet été. Jacob, vous venez donc d'une famille de serviteurs du roi Mossi. Le peuple Mossi est l'ethnie majoritaire du Burkina Faso. Et vous avez vécu au palais royal lorsque vous étiez enfant?
Oui.
Toute votre enfance?
Oui, je suis parti au palais à l'âge de 8 ans.
Ouais.
Je suis quitté presque du 9 ans.
Et vous avez écouté des disques?
Oui.
Dans la discothèque du roi?
Oui.
C'est que vous alliez écouter les Rolling Stones, voilà. Par oui, exemple, oui. Manu Dibango, oui, plein d'artistes
oui.
comme ça?
Oui.
Oui.
Il y a Johnny Hallyday.
Johnny Hallyday, oui. Ouais.
Quand je suis parti, on m'a donné un rôle. Je dois balayer la maison, nettoyer tous les jours. Donc, il y avait un appareil qu'on appelle électrophone.
Oui, électrophone.
Voilà, tu mets le grain et le disque. Chaque fois, je mets ça. Ça joue à Rolling Stone, Tina Turner et Stevie Wonder.
Stevie Wonder.
Et voilà, ouais. Beatles, tous les grands musiciens.
Qui vous ont inspiré. Ça vous a inspiré aujourd'hui. Alors, Sam Keta, cela signifie porteur de chance, paraît-il. Vous voilà. Qui êtes suisse, vous avez eu ce surnom au Burkina.
Voilà, c'est comme ça que Jacob m'a baptisé. Donc, c'est mon nom africain.
Ouais. André Courba, c'est votre vrai nom. Vous êtes originaire de Nyon. Et un jour, vous partez faire un périple en moto au Burkina Faso. Votre chemin croise celui de Jacob. Comment ça s'est produit?
En fait, j'ai eu son numéro de téléphone par un ingé son anglais qui avait habité au Burkina. Et puis je lui avais demandé s'il avait des contacts avec des musiciens. Et puis je pensais juste discuter de comment se passait la musique au Burkina. Puis j'ai appelé Jacob, il est venu une heure après, on a joué ensemble. Puis ça a été genre coup de foudre musical. On s'est tout de suite convenu.
Alors cet album a été réalisé au Burkina, mixé au célèbre studio de Londres, Abbey Road. Vous avez fait l'été dernier le festival de jazz culte de Montreux. Et nos amis de la radio RFI vous soutiennent. Ce qui plaît à tout le monde, en fait, c'est le métissage de votre musique. Et même le roi, hein, Jacob Salem, vous dit lors d'un concert que c'est ça qui l'intéresse chez vous. C'est ce métissage-là, parce que la culture du Burkina, elle doit être métisse.
Oui, le roi a dit comme ça. Il aime ça beaucoup. Il aime ça, il aime la musique, le football. Si vous partez dans la cour, vous avez tout. Le terrain de football, basket, tout.
Ouais, c'est une façon de perpétuer la tradition de la métisser.
Oui, c'est normal. Pour l'Europe, et l'Europe aussi puisse connaître pour nous.
Ouais. Oui, ouais, c'est un échange, c'est ça, oui, entre l'Afrique, oui. L'Europe, l'Amérique.
Oui.
Il faut s'inspirer de toutes ces influences-là
oui.
Pour partager tous ensemble.
Oui, pour amener la joie et la vie.
Et puis il y a des textes, surtout Jacob Salem et Somme Kieta. Dans cette émission, on est très sensible aux textes, tous les textes. Vous portez une parole poétique, mais aussi engagée, face à la situation des albinos en Afrique, par exemple, avec le titre que l'on entend en ce moment, Kiiba. Il y a un drame absolu avec les albinos.
Oui.
On les maltraite,
oui.
On les torture.
Oui. On les tue, même.
On les tue.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe, Somme Kieta, en Afrique, avec les albinos?
Bon, Jacob pourrait mieux vous le dire, mais les albinos sont considérés comme un malheur qui arrive dans une famille et donc sont souvent écartés socialement, voire brutalisés, voire tués.
Vraiment, les gens sont très méchants, ils pensent très court, ils pensent pas très bien.
Comme si les albinos portaient malheur,
voilà,
c'est ça?
Oui. Ouais. Donc vraiment, ça c'est pas bon.
Somme Kieta, vous dites « En Afrique, j'ai trouvé l'amitié et le sens du partage ». C'est ça que vous retenez de ce voyage, de cette expérience, de cette rencontre?
Ouais, la bienveillance aussi, énormément de bienveillance, de plein de gens, d'être ensemble.
Bien. Jean-Michel Ribé, captivé.
Oui, je suis
captivé. Vous aimez cette musique, hein?
J'aime cette musique,
et ces paroles.
Burkina Faso, et j'ai même été rendre visite au roi, qui reçoit de temps en temps des gens. Et c'était très intéressant. Il n'a plus un pouvoir comme avant, mais c'est quand même, là encore, quelque chose de très chaleureux. Il rencontre des gens comme ça, inconnus, et c'est un pays que j'ai beaucoup, beaucoup aimé.
Ouais. Il a un pouvoir consultatif, comme on dit, puisqu'il donne son avis quand le président est nommé, mais il est nommé par le peuple, donc
oui,
ça reste une démocratie.
Il a surtout le pouvoir de l'échange, comme vous disiez, le pouvoir de la communication simple.
Merci beaucoup Jacob Salem. Merci infiniment Somme Kieta.
Merci à vous.
Vous êtes
merci
les bienvenus dans la librairie francophone. Nan Louli est disponible sur les plateformes légales d'écoute et de téléchargement en ligne. À bientôt, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
La chronique des libraires tous ensemble pour les coups de gueule et les coups de cœur. Déborah Damblon en Belgique. On commence avec vous et avec un coup de gueule dans les rayons, dans le rayon des livres pour la jeunesse.
Ben oui, Emmanuel. Je ne sais pas si vous avez récemment fait un petit tour dans les rayons jeunesse d'une librairie. Vous voyez particulièrement dans le coin des tout-petits.
Oui, si, si, oui.
Eh ben, moi je trouve que pour le moment, on a surtout affaire à des gadgets qui font barrage aux vrais albums. Comme si, sans trucs à tirer, sans machin à pousser, sans choses qui font du bruit, qui brillent, qui font pop, qui... Enfin, vous voyez tous ces trucs-là.
Il y a plein d'objets, oui. C'est vrai qu'il y a plein d'objets.
Des objets ou des machins à pousser, puis il faut des piles là-dedans. Eh ben, si sans tout ça, on n'était plus capable d'intéresser les minots.
Ouais.
Et on va finir par oublier que pour les faire rêver, ben, le meilleur moyen, c'est encore de leur raconter des histoires magnifiques et de leur montrer des illustrations fabuleuses.
Exactement, vous avez raison. C'est bien de militer pour la littérature jeunesse. Et nous parlerons d'ailleurs de la littérature jeunesse plus intensément dans cette émission. On verra ça plus tard, je vous expliquerai. Merci Déborah. Dominique Bressoux, un coup de cœur dans le rayon des romans contemporains.
Oui, moi j'ai un très gros coup de cœur pour Loin de Douala de Max Loeb aux éditions Zoé. Parce qu'en ces temps où le foot prend beaucoup, mais alors beaucoup de place partout, Max Loeb nous en montre un autre aspect, ce que sont prêts à faire certains jeunes Camerounais pour devenir des stars du foot. Alors il y a toujours la superbe écriture de Max Loeb, c'est drôle, entrecoupé de petites touches quelquefois dramatiques, c'est une petite merveille.
Bien, Max Loeb, que l'on connaît bien dans cette émission, on avait déjà parlé de ce livre d'ailleurs, Loin de Douala, c'est le dernier, aux éditions Zoé. Merci Dominique, le rayon des romans toujours, avec un polar, Mathieu Colombe en France.
Oui, et d'ailleurs c'est un semi-coup de gueule.
Ah,
c'est
allez-y.
Pas vraiment un coup de gueule, mais en tous les cas, voilà, c'est quelque chose qui fait clivage chez moi, donc j'amène ça à l'antenne. Et en fait, on va parler du dernier Johann Sfar, qui est un polar, et qui est une suite du Niçois. Personnellement, j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose. C'est-à-dire que normalement, Johann Sfar m'habitue à une certaine excellence dans toutes les formes de son travail.
Oui, la bande dessinée notamment.
Même dans son œuvre romanesque, dans le premier Niçois, par exemple, il y avait quand même quelque chose qui marchait très très bien. Et là, j'ai trouvé des choses un petit peu grossières, il y a les bonnes références, mais au final, j'ai l'impression qu'on reste un peu sur sa fin. Et il ne m'avait pas habitué à ça, en fait. Donc j'étais très étonné de cette sortie-là.
Oui, quelques clichés, d'ailleurs, avec des personnages qu'on reconnaît, les maires, les anciens maires. C'est la politique, la salade niçoise, comme on dit, mais il l'a écrit en réaction après l'attentat du 14 juillet. Il devait aller au feu d'artifice, comme moi d'ailleurs, il n'y est pas allé. Et donc en réaction, il s'est jeté dans l'écriture, il se défoule un peu dans ce livre.
Mais bon, d'accord, c'est voilà. Quelque chose de.
Mais c'est vrai que c'est un peu cliché, je suis un peu d'accord avec vous. Et puis alors la couverture. Bref, c'est pas si important. Johann Sfar, Farniente, Le Niçois, aux éditions Michel Lafon. Merci beaucoup Mathieu. On termine avec le Canada. Jérémy Laniel, coup de gueule ou coup de cœur ?
Coup de cœur, Emmanuel, pour un livre un peu hybride. Hein. Je triche un peu. C'est une maison d'édition qui donne dans l'essai, la maison d'édition Atelier 10, qui s'allie d'une maison d'édition en bande dessinée, la Pastèque, pour créer une collection Journalisme 9. C'est la première BD de cette collection. Elle s'intitule Faire campagne, joie et désillusion du renouveau agricole au Québec. On est vraiment dans la BD reportage et ça nous propose quelque chose d'excessivement intelligent sur le renouveau de l'agriculture au Québec. Faire campagne relate toutes les embûches possibles pour une nouvelle génération d'agriculteurs, tout ce qu'ils peuvent frapper lorsqu'ils tentent de faire différemment, de repenser le modèle ou de travailler à petite échelle. Ce genre de projet est essentiel pour comprendre les enjeux sociétaux qui nous entourent. Hein? C'est porté par une vulgarisation incroyablement efficace comme seule la BD en est capable.
Exactement. Rémi Bourdillon, c'est l'auteur avec les illustrations de Pierre-Yves César. Merci beaucoup, Jérémy. Et on part dans le rayon des livres de poche avec un médecin québécois qui avait eu un gros succès avec son livre « On est foutu, on pense trop » et avec son hamster pensouillard. Serge Marquis a publié un roman-essai sur l'ego. Vous allez apprendre avec lui à accéder au bonheur avec son livre « Le jour où je me suis aimé pour de vrai » paru aux éditions Point.
Toi, 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 tu penses qu'à toi. Je, tu sais dire que ça t'est qu'un égoman. Un ego, ego, man, ego, 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 man.
L'attention est accaparée constamment par l'ego. Et c'est ce qui est très intéressant d'un point de vue neurologique. On sait maintenant que l'attention ne peut pas être à deux places en même temps. Alors, si elle est accaparée par toutes les préoccupations de l'ego, elle ne peut plus être dans le présent. Mm-hmm. Elle ne peut plus être avec l'autre. Elle ne peut plus être dans l'émerveillement, dans la créativité, etc. Donc, c'est très important de prendre conscience de ça pour être capable de vivre pleinement nos vies.
Et vous dites que l'ego, c'est un oignon.
Ouais. Ben, en fait, c'est le résultat d'un processus qu'on appelle le processus d'identification. Quand on fait des recherches sur l'ego, on trouve toutes sortes de choses. On va en Orient, les gens nous disent là-bas que c'est un concept, une illusion, bon, etc. En Occident, on a toujours voulu le renforcer, le rendre plus gros, le rendre plus fort.
Ouais.
Mais quand on y réfléchit, on découvre que c'est le résultat d'un processus que j'appelle le processus d'identification. On s'identifie à toutes sortes de choses, à ce qu'on possède, on s'identifie à nos idées, à nos croyances. D'ailleurs, ça mène très loin parce que le problème est que quand le cerveau est entré dans le processus d'identification avec une pelure identitaire, c'est pour ça que j'utilise l'image de l'oignon. Le cerveau à notre époque ne fait plus la distinction entre la perception d'une menace à notre survie et la perception d'une menace à la pelure identitaire. Il déclenche la même réaction biologique de stress, de lutte ou de fuite. Par conséquent, si on s'est identifié à un objet et qu'il y a des commentaires qui sont portés sur l'objet, par exemple un vêtement qu'on porte, et que ces commentaires sont négatifs, on va entrer en mode lutte et, ou fuite.
On le prend pour nous, ouais,
c'est ça. On le prend pour nous.
Ouais. Donc, alors c'est vrai, par exemple, une fonction, quand on incarne une fonction, vous l'expliquez très bien ça. Par exemple, je sais pas, médecin, journaliste, homme politique, policier, pompier, en fait, une fonction avec laquelle on peut se valoriser. Ouais. Elle fait partie intégrante de nous. Voilà, on se prévaut de cette fonction. Ouais. Et donc à partir de là, l'ego finalement nous submerge.
Oui, tout à fait, parce que on est tellement identifié à ce que nous faisons. Mais ça fait très longtemps qu'on fait ça. On s'est identifié aux objets qu'on fabriquait, donc on mettait notre signature dans une pointe de flèche. Alors on s'identifie à ce qu'on fait. Aujourd'hui, on s'identifie à sa profession, ce qui crée des dommages majeurs, parce que quand une personne reçoit des commentaires négatifs à propos de ce qu'elle fait. L'artiste, par exemple, qui crée une œuvre et qui reçoit des critiques négatives à propos de son œuvre, va prendre ces commentaires-là à son propre sujet et va entrer dans un état parfois dépressif parce que c'est comme si on avait fait des commentaires sur son être.
Mais c'est un peu ça.
Non.
Mais si, quand on incarne les choses, quand on est artiste, par exemple, puisque vous citez les artistes.
Oui, mais je distingue tout ce qui est de l'ordre de l'ego, des pelures identitaires, de ce qui en nous ne vieillit jamais. J'emprunte cette phrase-là à Marie de Hennezel, je la trouve très importante, parce que la créativité, ça fait partie de ce qui en nous ne vieillit jamais. Et ce n'est pas une pelure identitaire, la créativité. Je ne perds pas ma créativité s'il y a des critiques négatives à propos d'une œuvre. Je demeure créatif. C'est très important. Je ne perds pas ma créativité si je perds mon emploi. Malheureusement, il y a des personnes qui ont l'impression d'être complètement débranchées de leur créativité parce qu'elles ont perdu leur emploi. Et c'est fondamental de reconnecter avec ce qui en nous ne vieillit jamais.
Alors dans votre roman, on suit plusieurs personnages, dont un petit garçon qui va très tôt se poser la question de l'ego. Il va devenir aveugle à l'adolescence et il renvoie à sa mère sa vie nombriliste, sa vie égotique. Sa maman, elle est médecin, elle soigne les enfants malades. Et finalement, elle a aussi son propre ego, même en tant que médecin. Alors, vous êtes médecin vous-même, donc ça veut dire que les médecins sont aussi dans l'ego. C'est-à-dire que s'ils perdent des patients, c'est un échec pour eux-mêmes.
Ah oui, mais ça va même au-delà de ça. Dès la faculté de médecine, il y a beaucoup de médecins qui, déjà, on les voit marcher au-dessus du sol, c'est comme s'ils flottaient. ils sont déjà dans l'ego, je suis tellement extraordinaire. Et d'ailleurs, ils sont très fiers de dire, à bien des endroits, je dis pas tous, là, mais ils sont très fiers de dire, je suis médecin. Hein. Déjà, il y a une espèce de... Ils ont l'impression d'avoir une espèce de notoriété uniquement en prononçant ces mots-là. Et cette femme, ce personnage, Maryse, ce que je voulais démontrer, parce que j'en ai connu au cours de ma pratique, je voulais démontrer qu'elle est tellement dans l'ego qu'elle n'est plus présente aux enfants qu'elle soigne. Et il y a des enfants qui sont là pour lui rappeler.
Oui, il y en a un qui le fait. Ouais.
Qui le fait. Mmh. C'est son rôle premier. D'ailleurs, dans sa seule présence aux enfants qu'elle soigne, elle peut déjà les aider en grande partie à aller vers la guérison.
Et vous dites qu'il faut être dans la présence.
Ouais.
Alors là, qu'est-ce que c'est ça, la présence, Serge Marquis? Parce que vous dites que quand on s'inscrit dans l'instant présent, finalement, il ne faut pas s'inquiéter ni de l'avenir, ni du passé.
Non.
Comment on fait, docteur?
On amène son attention tout simplement dans le présent. Je suis là en train de vous écouter, je ne suis plus en train de me dire qu'est-ce qu'on va dire de mon livre, etc., etc. Ça, quand je suis à ce niveau-là, je ne suis plus dans le présent. Je peux m'en rendre compte. L'attention ne peut pas être à deux places en même temps, je le rappelle. Et l'attention peut être facilement accaparée par les peurs que l'ego. L'ego est constamment dans la peur.
Mais on a
la
tout le temps peur. On a peur de perdre son travail, on a peur pour ses enfants, on a peur d'être malade, on a peur de perdre des proches, on a peur de la séparation, on a peur de tout ce qui peut arriver de négatif et qui finalement arrivera un jour.
Ah oui,
c'est affreux, docteur. Comment fait-on pour se sortir de là? On a tous une peur.
Oui, absolument. La peur est une des émotions les plus primitives que l'être humain a pu connaître. C'est, entre autres, la peur a permis à l'espèce humaine de survivre. Si on n'avait pas eu peur, on n'aurait pas survécu. Mais aujourd'hui, je ne parle pas de la peur qui est saine. Il y a une peur qui est saine. Mais il y a des peurs qui sont complètement inutiles, ridicules, absurdes.
Par exemple?
Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Maintenir mon image, etc., etc., à gauche et à droite. Des discours complètement inutiles qui nous empêche d'être présents, justement. Parce que quand l'attention est accaparée par ces discours-là, mon attention n'est plus ici.
Existe-t-il des cas particuliers où l'ego est nécessaire, Serge Marquis?
On va souvent poser cette question-là. Moi, je crois que quand on arrive à être complètement dans la présence, à ce moment-là, tout notre potentiel, toute notre capacité s'exprime. Et que ce n'est pas nécessaire. Il y a des gens qui me disent, si on n'a pas l'ego, on ne pourra pas réussir. C'est faux.
Pour moi, acteur, par exemple, il a besoin d'un ego.
Je ne suis pas certain.
Non, Patrice Lecomte.
Oui, moi, je pensais surtout qu'un acteur et que nous avions tous besoin d'un ego plus ou moins surdimensionné, ça c'est une autre chose, mais que vivre, essayer d'exister dans cette société, quelle que soit notre fonction familiale, professionnelle ou autre, sans ego, je pense qu'on est mort.
Vous avez un ego surdimensionné, vous?
Aujourd'hui, ça va, mais demain, ça peut être pire.
Le succès des Bronzés, tout ça, ça vous a monté à la tête un moment ou pas?
Non, du tout.
Jamais.
Vraiment jamais.
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 Serge Marquis.
Oui. Il y a beaucoup de gens qui parlent de l'ego, qui essaient de démontrer qu'on peut arriver enfin à une espèce de paix intérieure, de bien-être, si on arrive à apaiser l'ego. Mais souvent, ce sont des gens qui sont dans les monastères ou des gens qui nous parlent d'une illumination qu'ils ont connue. Et ça nous paraît totalement inaccessible. Et ce que j'ai essayé encore une fois de démontrer, c'est qu'au quotidien, il y a deux façons de se comporter neurologiquement. Il y a toute la dimension égoïque et il y a la dimension de la présence. Et on oscille constamment entre les deux. Et en ce qui me concerne, c'est dans la présence qu'on se développe et qu'on savoure son existence réellement.
Moi, 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 un égo, égo, moi.
Un entretien réalisé avec la participation de Patrice Lecomte, vous l'avez entendu. C'était notre petite surprise. Et le livre de Serge Marquis, Le jour où je me suis aimé pour de vrai, est paru aux éditions Point. Si vous aimez les arbres, restez avec nous. On en parle avec le roman de la Belge Karine Lambert. Avant cela, voici la chanteuse Soko, qui reprend un célèbre titre du chanteur Yves Simon. Je vous laisse deviner, c'est facile. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
Dans tes classes de lycée, y'a tes rêves et tes secrets, tous ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne.
La chanteuse française Soko, qui reprend la chanson d'Yves Simon, Diabolomante, dans la librairie francophone.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et bonjour Karine Lambert.
Bonjour Emmanuel.
Un arbre un jour vient de paraître chez Calman Lévy. Vous êtes une auteure belge qui a connu le succès en librairie avec votre roman L'immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes, notamment. Cette fois, il est question d'un arbre. Plantez-nous le décor, si je peux dire, Karine. Décrivez-nous la place où se trouve cet arbre.
Mais déjà, imaginez un ciel bleu vif, le x-x-x-x des cigales, un parfum de lavande. C'est la place d'un petit village de 1000 habitants. Il y a un bar PMU qui a été rouvert récemment. Et autour de cette place, dans des maisons à peu près de 2 étages, vivent ces habitants. Et surtout, au centre, il y a ce platane centenaire de 32 mètres de haut qui les observe et qui fait partie de leur vie.
Voilà. Et on va suivre la vie et l'histoire de 8 habitants, tous différents en âge et en situation. Il y a un gamin, 2 sœurs très âgées, un employé municipal, la patronne d'un bar, un travailleur saisonnier un peu marginal, Manu. Les Manus sont toujours marginaux, j'ai jamais compris ça. Bref, tous racontent leur vie et ont un point commun, leur attachement au platane de la place du village.
Un attachement qui peut parfois se révèle de nouveau plus fort quand on apprend qu'il va disparaître. Et en fait, cet avis d'abattage placardé sur l'arbre va faire écho chez chacun d'eux à des choses différentes, qui sont à un instant T de leur vie. Et donc, ce qui se passe avec l'arbre va les faire évoluer aussi par rapport à eux-mêmes.
Ouais. On les suit comme ça du 1er au 22 mars. Chaque jour est raconté à travers la vie de vos personnages. Même l'arbre parle. Vous en faites un personnage qui s'exprime. Et franchement, un arbre qui parle, ça fait un peu livre pour enfants. Mais les thèmes ne sont pas du tout enfantins dans votre livre.
Non, surtout quand il comprend qu'il va mourir.
Oui, qu'on va l'abattre.
Donc... J'avais pas mal hésité sur la dose d'anthropomorphisme que j'accorderais à cet arbre.
Là, vous y êtes allé, hein,
si on n'avait pas du tout, il se passait rien. Si on avait trop, ça risquait d'être trop. Et surtout, au début, j'étais à l'aise avec ma feuille, mais quand je sortais dehors, j'avais l'impression que les arbres me regardaient et me disaient « mais ça va pas de nous sortir du silence comme ça ». Et puis, à un moment, j'ai eu l'impression de trouver la juste mesure. Et voilà, j'ai passé un an... dans la tête de cet arbre.
Bon, on va voir si ça passe du côté de nos libraires. Avec Jérémy Laniel qui est au Canada, c'est le plus difficile d'entre nous, j'allais dire d'entre eux. Jérémy, que pensez-vous de ce roman ?
Bien, j'ai trouvé que ce livre était absolument tendre, rempli de bons sentiments, et donc en d'autres mots, absolument pas pour moi. N'empêche, hein, il y a là un style qui n'est pas trop appuyé avec lequel Karine Lambert parvient à mener son projet à terme, et elle le fait très bien. Par contre, il y a un petit côté conte moral, conte philosophique qui, pour moi, ça me parle pas beaucoup. Puis le point de vue de l'arbre dont on parlait justement, j'ai trouvé que c'est un petit peu superflu dans le texte, malheureusement.
Bien. Dominique, pour la Suisse, êtes-vous d'accord?
Non. On est là en face, pour moi, d'un vrai roman. Les personnages, y compris l'arbre, sont comme tout le monde, en fait, face à leur solitude, leurs problèmes existentiels. Mais au moins, l'auteur a réussi à leur inventer une certaine forme de solidarité très apaisante à lire. Et normalement, en fait, c'est pas du tout mon type de lecture, mais je trouve que ça fait aucun mal de rêver d'une vie simple de village où les gens font attention les uns aux autres.
Bien. Vous entourez les arbres de vos bras ? Comme le font certains de vos personnages à un moment dans le livre ?
Non.
Non.
Je communique autrement avec eux.
Comment ?
Par l'écriture.
Et vous leur lisez vos textes ?
Non, je ne leur lis pas mes textes, mais c'est eux qui sont dans mes pensées nuit et jour.
Bon, certains vont mettre de petits messages sur l'arbre pour résister justement à ce projet d'abattage. Il y en a qui sont très drôles d'ailleurs, il y en a un que j'ai relevé, qui dit « Si l'arbre savait ce que lui réserve la hache, il ne lui fournirait pas le manche. »
Dans la résistance, il y a effectivement des messages anonymes qui sont enlevés chaque jour par l'employé municipal qui remet un avis d'abattage à chaque fois.
Bon allez, on va en Belgique, dans votre pays, avec Déborah Damblon, qui a lu votre roman très attentivement. Que voulez-vous dire à Karine Lambert, Déborah ?
Eh bien, j'ai d'abord envie de vous citer un grand homme, Karine, Victor Hugo lui-même, et une très très belle phrase qu'il a écrite et que j'aime beaucoup, qui dit « Je ne puis regarder une feuille d'arbre sans être écrasé par l'univers, parce que les arbres, ce sont des univers en résumé. » Eh bien, votre arbre, il m'a tout de suite plu. Vos personnages, en revanche, ils m'ont semblé un petit peu nombreux au début pour que je puisse m'y retrouver facilement. Mais heureusement, j'avais cette métaphore de l'arbre et de la feuille, et c'est comme ça que j'ai plongé dans le livre.
Bon, Karine Lambert, il y a plein de choses dans ce livre. On va se mettre un petit peu dans l'ambiance.
D'accord.
On a demandé à l'un d'entre nous de lire un extrait de votre livre sur une des musiques qui est citée dans le livre. Vous allez tout reconnaître, y compris la voix de Jean-Michel Ribes, qui est juste à côté de vous. Grand homme de théâtre qui va interpréter votre texte sur cette musique. Écoutez.
J'ai survécu à tant de périls. Les maladies, la vermine, mes racines enfiévrées, le gel. J'ai bien failli y rester lorsqu'il n'a pas plu pendant des semaines et je tiens toujours debout. La foudre est tombée sur le clocher l'été dernier. Elle m'a évité de justesse. 7 canicules en un siècle. Je me souviens des feux dans la campagne, l'odeur d'écorce brûlée, les fleurs desséchées, les lézards qui crèvent, le vent étouffant. Je ne veux pas terminer couché dans la remorque d'un cytone rouge, 100 sur la départementale 12. J'ai 103 ans. Je suis beaucoup trop jeune pour mourir.
Merci Jean-Michel.
La vie ne vaut rien. Quand je tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis.
Merci Jean-Michel, effectivement, à la raison, Karine
Quel
Lambert.
Honneur.
Quel honneur.
Non, c'est
très belle lecture.
Pour moi, merci d'avoir m'avoir donné la possibilité de lire ce beau texte.
Sauver cet arbre, Karine Lambert, devient un symbole dans le village. Ce n'est pas un acte écolo, c'est plus que ça. C'est une façon de préserver ses souvenirs, de conserver ses racines. Pour l'arbre, mais aussi pour les hommes autour.
Comme je le disais tout à l'heure, si cet arbre disparaît, c'est comme si l'âme du village disparaissait. Toute cette vie, il est comme le témoin de leur vie aussi à travers toutes les années, de ceux qui sont nés, ceux qui sont morts, ceux qui sont partis, qui reviennent. Et donc il est finalement l'élément essentiel.
Ouais, c'est un peu le baobab. On parlait du Burkina Faso tout à l'heure avec Jacob Salem, mais c'est un peu le baobab du village, ce platane.
Comme dans la...
On palabre autour, on se retrouve autour.
On se retrouve, on palabre, on...
C'est un platane ?
Oui, c'est exactement. Un platane.
Moi, c'est un arbre qui me touche beaucoup parce que c'est l'arbre de mon enfance quand j'allais beaucoup dans le Midi, où il y avait beaucoup de platanes et en ce moment, ils sont tous en train de mourir. Et c'est vrai que...
Ouais, il y a une maladie dans le Midi.
Ouais, et c'est vrai que ça le fait chancre. Beaucoup de peine. Le platane est un arbre qui est devenu presque humain.
Jacob Salem,
oui.
Vous avez un arbre, vous ? Un
oui.
arbre fétiche, c'est vrai ?
Oui.
Où ça ?
C'est au village.
Au village ?
Tout le monde se rencontre là-bas.
Qu'est-ce que c'est comme arbre ?
C'est baobab.
Ah, c'est le baobab,
oui.
Voilà. Bon. Vous avez un arbre chez vous, Karine Lambert ?
J'ai plusieurs arbres, ouais. Oui, dans mon jardin.
Ils vivent en intérieur, hein. On peut avoir des oliviers si on les met près d'une fenêtre. Bon, le mot de la fin, c'est pour un libraire. Honneur à la France cette semaine, avec notre Zidane d'Aix-en-Provence, Mathieu Colombe. Là, je me mets à la page, hein. Je suis désolé.
C'était beau. Eh bien, en fait, pour moi... L'exercice est maîtrisé, en fait. Les personnages sont attachants, ils sont souvent drôles, sans être simplés. L'histoire marche et on finit par tourner les pages parce qu'on a autant envie de savoir ce qui va se passer que les personnages. Alors oui, à la fin, il y a une jolie morale, etc. Mais ce roman remplit parfaitement sa fonction, c'est-à-dire qu'il fait passer un bon moment, il suscite des émotions et au final, il retient le lecteur.
C'est ce qu'on voulait.
Merci.
Vous proposez des livres à lire au soleil, sous un arbre par exemple, comme celui-ci, Un arbre un jour de Karine Lambert. Merci beaucoup Karine
Merci.
D'être venue dans cette émission. Votre roman est paru aux éditions Calman Lévy. Et on va tous se jeter sous un arbre pour lire celui de Jean-Michel Ribes. Merci Jean-Michel, à bientôt.
Merci à vous.
En écoutant la musique de Jacob Salem par exemple. À bientôt, merci beaucoup.
La librairie francophone, Emmanuel Guérald.
Avant de conclure, coup de projecteur sur un artiste francophone. Voici l'artiste Voyou avec un extrait de Papillon.
Bon papillon, ou jamais là, c'est de toutes ces fleurs. Quand tu t'envoles dans les airs, c'est mon cœur qui se lève. Ton voyage.
Voyou Papillon, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Henri-Marc Mutel avec Nicolas Cazot et Antoine Gomez, Thierry Dupin, la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère en France, Martine Béguin-Felet et Annick Chouin en Suisse, René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique, Sylvie Julien et Jacqueline Castonguet au Canada. La semaine prochaine, ce sera la dernière émission de la saison avant la librairie francophone estivale. Merci de nous avoir suivis. Nos libraires vous conseilleront des livres pour l'été. Et on va vous accompagner jusqu'au bout. Bon week-end, bonne semaine. Merci pour votre fidélité. Salut.